Vous écoutez France Culture.
Le journal était signé Anne-Laure Chouin. Elle sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître qui était Jacques de Rogy qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. C'est le secret des sources sur France Culture et sur franceculture.fr pour tous vos commentaires. Avec en coulisses les indispensables Vincent Abouchard, Emmanuel Morse-Duncan et Mathias Mégy. Les emmerdements, ça vole en escadrille, disait Jacques Chirac. C'est aussi ce que doit être en train de se dire l'UMP au vu de la semaine écoulée. Affaire Copé Big Malion, affaire Buisson et enfin nouvelle affaire Sarkozy avec cette information judiciaire ouverte pour trafic d'influence. Étonnante séquence qui a suscité une vraie frénésie médiatique et qui pose aussi quelques questions sur les pratiques journalistiques. Nous allons essayer de comprendre avec ici dans ce studio Ariane Chemin, grand reporter au Monde, Pascal Sceaux, journaliste d'investigation à l'Express, et Charles Jégu, grand reporter au service politique du Figaro. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également, comme toujours, le regard extérieur, aujourd'hui celui d'Isabelle Véramasson, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, et le regard de l'homme du multimédia, Éric Chavroux. Bonjour également à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
La contre-attaque de Jean-François Copé dans une déclaration solennelle. Il promet de publier les comptes de l'UMP, mais seulement si les autres partis et les patrons de médias font de même.
Notre enquête. Ça, c'était les titres sur France 2 lundi soir. Les soucis de Jean-François Copé face aux soupçons de surfacturation au profit de ses proches de la société Big Malion. 48 heures plus tard, mercredi soir, l'affaire Buisson et son cortège d'enregistrement clandestin supplantaient la précédente affaire. Dans les gros titres, cette fois, c'était F1.
Des réunions confidentielles à l'Élysée enregistrées clandestinement pendant des mois par Patrick Buisson, l'un des proches conseillers de Nicolas Sarkozy. Réaction scandalisée à droite et à gauche.
Et jamais 203, la semaine s'est donc achevée avec ces révélations sur le placement sur écoute de Nicolas Sarkozy, soupçonné de trafic d'influence au sujet en particulier de la saisie de ses agendas dans l'affaire Bettencourt. Rude semaine donc pour l'ancien président et plus globalement pour l'UMP, le tout à 15 jours des élections municipales. Une semaine dans laquelle la presse joue un rôle central, révélation du Point dans l'affaire Big Malion, du Canard Enchaîné et d'Atlantico dans le dossier Buisson, de l'Express et du Monde dans l'affaire de trafic d'influence. Et une semaine qui soulève aussi, je le disais, certaines interrogations sur les méthodes des médias. Alors la première question porte sans doute sur ces enregistrements clandestins, tout droit sortis du dictaphone de Patrick Buisson et abondamment diffusés par la presse. J'ai envie de vous demander les uns les autres tout simplement, est-ce qu'on n'est pas typiquement quand même dans un abus journalistique, une atteinte à la vie privée ? Pascal Sceaux, Ariane Chemin.
Ce qui est étonnant, je trouve, c'est que, en tout cas, on voit qu'il y a des digues et des barrières qui ont sauté. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans ou 3 ans, publier les enregistrements du majordome faisait débat. En tout cas, ça avait fait, par exemple,
le majordome de Bettencourt.
Voilà, ça avait fait débat au Monde. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, c'est sûr.
Là, c'est peut-être un peu différent par rapport au majordome des Bettencourt, parce que là, de manière assez claire, ça relevait de la vie privée. Là, c'est un peu moins clair, on va dire, parce que finalement, ces réunions, c'est des réunions entre collaborateurs du président. C'est donc lié à l'histoire, à la politique qui se mène dans le pays. Et ça peut avoir un intérêt pour le public. Mais ceci dit, moi, ce que j'ai noté quand même, c'est que pour l'instant, les extraits qui ont été publiés sont assez courts et ne sont pas extrêmement significatifs. On n'apprend rien d'extraordinaire.
C'est ce que j'allais dire. L'intérêt général, il est quand même assez limité. Ouais, on n'apprend pas grand-chose. Mais enfin, je veux dire, ce qui a été mis en exergue, en plus, par un certain nombre de médias, étaient des choses extrêmement anecdotiques pour certaines.
Oui, mais ce dont il s'agissait dans un premier temps, c'était de montrer cette espèce de chose incroyable, c'est-à-dire de président de la République espionné dans son travail quotidien, finalement, par un de ses proches. Ce qui est quand même... assez rare.
La grande différence aussi, c'est que dans le dossier Bettencourt, si je puis dire, c'était versé dans une procédure, ce qui n'est quand même pas du tout le cas ici. On voit que ça n'était pas versé dans un dossier judiciaire. C'est quand même très différent. Là, on est dans le privé-privé.
Parce que là, il y a quand même il y a une plainte de Patrick Buisson pour recel. Hein. Il y a une plainte, un référé qui sera examiné d'ailleurs lundi de Nicolas Sarkozy et de son épouse, justement pour atteinte à la vie privée. Si on examine, grosso modo, la jurisprudence récente, on est en droit de penser qu'ils vont gagner. Enfin, je sais pas, Charles Jégu, qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis ni magistrat ni avocat, mais enfin, normalement, c'est toujours gagné par la partie plaignante. La protection de la vie privée, en France en particulier, quand même bénéficie d'une jurisprudence qui se penche toujours du même côté. Donc, il y a fort à parier qu'ils obtiennent gain de cause. Mais dans l'intervalle, ça n'empêchera peut-être pas que d'autres enregistrements soient diffusés, y compris sur des sites en Ouzbékistan ou je sais pas où. Après tout, tout ça peut se promener facilement. Hein.
Parce que encore une fois, jusqu'à présent, ce qui était plus intéressant, c'était, j'allais dire, le contenant plutôt que le contenu. Ce qui est intéressant, c'est le principe même que Patrick Buisson ait procédé à cet espionnage, pas tellement ce qu'on entend.
On nous parle de centaines d'heures d'enregistrement, donc on peut quand même imaginer que dans ces enregistrements, il y a des choses un peu plus intéressantes que celles qu'on a déjà entendues. Celles qu'on a entendues ne sont pas inintéressantes, d'ailleurs, elles campent une ambiance, une atmosphère de groupe, de dynamique de groupe, plus ou moins à des moments d'ailleurs où ils sont en train en réalité d'arrêter de travailler. Donc pour le journaliste que je suis, c'est quand même amusant à entendre. Évidemment, je ne suis pas certain que Le Figaro l'aurait diffusé. Est-ce que Le Monde l'aurait diffusé? Je ne sais pas.
On ne l'a pas fait, en tout cas.
Bon, donc évidemment, c'est un site comme Atlantico qui a besoin de publicité à un moment donné aussi et qui peut-être a des règlements de compte particuliers avec Patrick Buisson à faire valoir.
On le dit, mais ce n'est peut-être pas l'explication majeure non plus.
Ouais. C'est vrai quand même qu'il y a visiblement un arrière-plan privé qui est quand même très important sur l'origine des fuites de ces cassettes. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle n'existe pas dans la procédure judiciaire, puisqu'il y a eu 5 perquisitions conduites par la police dans le cadre de cette enquête, et à aucun moment ils n'ont trouvé trace de ces enregistrements. Donc les fuites, elles proviennent pas de l'enquête, elles proviennent de sources privées, qui restent à déterminer, mais en tout cas, tel est le cas. Mais moi, la deuxième question que j'ai envie de me poser, Charles Jégu faisait remarquer à juste titre qu'il y a des centaines d'heures d'enregistrements présumés. Vu ce qu'on a entendu, finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu une démarche? Alors, est-ce que ceux qui ont diffusé ces enregistrements possèdent la totalité? C'est la première question. Si oui, est-ce qu'il n'y a pas eu une démarche, finalement, de freiner, de ne pas vouloir donner des éléments plus troublants, pouvant porter atteinte, je ne sais pas, par exemple, au secret défense, à des conversations couvertes par le secret? Et juste pour dire, voilà, il y a bien eu ces enregistrements. Ce qu'on vous diffuse, c'est pour vous montrer que cet espionnage qui était nié farouchement par Patrick Buisson jusqu'alors, était bien réel.
Encore une fois, ce que disait Ariane Chemin au tout début d'émission, est-ce qu'on n'est pas juste dans l'effet en chaîne des affaires Bettencourt, Cahuzac aussi, où à chaque fois il y a des enregistrements clandestins et où chaque fois un peu plus les barrières tombent et donc maintenant les médias ne se posent plus trop la question, en fait, ils diffusent?
Peut-être, oui. Il y a peut-être effectivement vous citez à juste titre un enchaînement de 3 affaires différentes dans lesquelles il y a eu des enregistrements. Et c'est vrai que finalement, on a l'impression que chaque fois, plus on avance, moins c'est contrôlé finalement. Moins il y a de résistance à les publier.
Mais donc, c'est un peu inquiétant quand même, non? C'est pas inquiétant, non?
Il y a de plus en plus d'écoutes. D'abord, on est dans une situation d'écoute. On voit que elles augmentent de façon exponentielle. Il y a aussi le paradoxe qui veut que dans cette société de l'image, aujourd'hui, on est suspendu aux voix, à l'enregistrement audio. C'est quand même aussi assez intéressant. Et effectivement, je pense qu'on le voit bien dans les dossiers d'instruction. De plus en plus, il y a des écoutes téléphoniques qui sont partout. Avec en plus ces côtés un peu troublants qui veut que quand c'est quelque chose de dit et écrit, ça n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on le voit bien, par exemple, dans ces enregistrements. Je pense que quand Nicolas Sarkozy plaisante en disant « j'ai une femme riche », il le dit au deuxième degré. Quand c'est écrit, c'est pas du tout pareil. Ça n'a pas le même sens et ça, c'est dangereux.
Alors, il y a la question du droit à diffuser ces images, mais il y a aussi, évidemment, comme toujours dans ces affaires et plus largement dans les affaires journalistiques, la question de la source de ces informations qui est déterminante. On va écouter, par exemple, ce que disait un autre ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, cette semaine chez nos confrères de France Info.
Si j'ai bien compris, ces bandes ont été saisies lors d'une perquisition judiciaire à propos de l'affaire des sondages. Elles n'avaient rien à voir avec l'affaire en question. La justice ne pouvait donc pas les utiliser, mais elles étaient détenues par la justice. Je voudrais savoir comment ces bandes sont passées du circuit judiciaire aux journaux qui aujourd'hui les publient. C'est une violation de la loi. Ben, je pense que quelqu'un a volé les bandes pour les donner à la presse. Cela aussi mérite une sanction, et une sanction très lourde.
C'est l'une des hypothèses. En fait, il y en a bien d'autres, hein, et notamment celle qui concerne l'entourage de Patrick Buisson. Mais plus globalement, cette question de la source, évidemment, policiers, magistrats, enquêteurs, politiques, dans une hypothèse, proximité de l'autre. On la retrouve évidemment dans toutes ces affaires, les trois qu'on citait en début d'émission. Pascal Sceau, vous qui dans l'Express avez été cette semaine l'un des premiers à sortir ces informations sur les soupçons de trafic d'influence, on se demande forcément qui a intérêt à vous parler. J'imagine que vous vous posez forcément la question avant de publier.
Bien sûr, on se pose toujours la question, mais il ne faut pas être dupe. Il y a un débat, à mon avis, qui est un faux débat, c'est-à-dire sur le débat sur la manipulation. Il y a toujours manipulation, d'une certaine manière, parce que personne ne vous donne une information pour vos beaux yeux, parce que vous êtes sympathique. Ça n'arrive jamais. Les gens vous donnent une information parce qu'ils ont un intérêt à vous la donner. Mais ce n'est pas tellement notre problème à nous. Notre problème, c'est de vérifier si l'information est exacte ou pas. Alors d'abord, d'évaluer si elle est intéressante, évidemment, pour le public. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, vérifier si elle est exacte. Après, si elle est exacte, qu'est-ce qu'on fait? On ne la donne pas au prétexte que peut-être on a été manipulé par la source?
Sauf qu'on ne l'appréhende pas de la même manière. Par exemple, prenons les enregistrements de Patrick Buisson. On ne va pas appréhender les choses de la même manière selon que ça vient de, je sais pas moi, d'un enquêteur, ou selon que ça vient du fils de M. Buisson. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
C'est vrai, mais je crois que ce n'est pas la situation. La situation, c'est qu'on est face à une accusation qui est portée dans un journal, dans Le Point, la première fois, en disant qu'il y a l'existence des enregistrements. Et on est face à quelqu'un qui dit « mais jamais de la vie, j'ai jamais enregistré le président de la République, c'est n'importe quoi ». Et il y a des journalistes, en l'occurrence du Canard Enchaîné et du site Atlantico, qui ont à leur disposition ces enregistrements. Ce serait quand même bizarre de les garder sous le coude.
De la même manière, là, si on parle de cette question du trafic...
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger la vie privée ou protéger un mensonge qu'on sait être un mensonge?
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte. Par exemple, prenons l'autre affaire, donc le trafic d'influence. Donc la question des agendas et de la validité de ces agendas, ça ne tombe pas là aujourd'hui à n'importe quel moment, puisque c'est la semaine prochaine que la Cour de cassation doit décider si c'est valable ou pas dans la procédure. Donc voilà, il y a quand même un contexte. Enfin, on ne peut pas publier sans se poser la question du contexte.
Et moi, je crois que c'est un peu un faux contexte sur ce point précis. Enfin bon, ce serait peut-être un peu long à expliquer, mais... Je ne comprends pas cette idée que le problème pour Nicolas Sarkozy, c'est la publication des agendas en relation avec l'affaire Tapie. Pourquoi? Il y a eu 14 rendez-vous entre Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy. Je le sais, c'est l'Express qui a publié le premier ces agendas qu'on a eu à notre disposition et qu'on a toujours à notre disposition. Dans le journal, on a publié ces 14 rendez-vous avec les dates. Qu'est-ce que ça va changer s'ils sont retirés du dossier? Rien. Donc, je trouve que l'argument qui consiste à dire que Nicolas Sarkozy a peur que ses agendas permettent d'avancer dans le dossier Tapie, franchement...
Charles Jégul, Figaro, est-ce que cette question de la nature de la source, sans divulguer bien entendu l'identité de la source, mais est-ce que la question de la nature de la source modifie pour vous la façon dont on doit appréhender l'information dans ce genre d'affaires?
Dans les deux cas qu'on a cités jusqu'à maintenant, par exemple l'affaire Bettencourt et celle-ci, l'affaire Bettencourt, on sait que c'est une source judiciaire qui va transmettre l'information aux journalistes, donc il y a violation du secret de l'instruction. Donc ça, il y a des médias qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Je pense qu'au Figaro, on aurait tendance à ne pas le faire, mais peut-être que parce qu'on pose à la vertu et qu'on a tort de le faire.
Parce que l'affaire DSK, vous l'avez fait.
On l'a fait sur l'affaire DSK.
Bien sûr, puisque votre journaliste est mis en examen, comme moi-même, pour violation du secret de l'instruction.
Bon, alors autant pour moi. J'avais oublié celle-là, peut-être opportunément. Voilà, j'avais. Comme quoi, nous sommes tous dans le même bateau. Mais c'est vrai qu'on le fait assez. C'est vrai que, disons qu'il y a des médias qui pratiquent ça beaucoup plus que le Figaro. On n'est pas très. On est peut-être parce qu'on n'a pas un service d'investigation à proprement parler, c'est aussi ça. Dans le deuxième cas, l'histoire des enregistrements Buisson, je comprends qu'on puisse être amené à le publier pour la raison qui était expliquée tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est vrai que Buisson avait affirmé que ces enregistrements n'existaient pas. Et donc, il y a une pertinence à le faire, mais de façon extrêmement parcellaire, juste pour montrer que ces enregistrements existent, pas pour encourager à une forme de voyeurisme ou de...
Et puis, il y a une mesure des conséquences, je pense. Moi, je me souviens d'une anecdote quand je travaillais dans le même journal qu'Ariane, il y a quelques années. Vous vous rappelez du fait divers terrible de Guy Georges, ce tueur en série qui écumait Paris. On a été alerté, en fait, plusieurs journalistes, des journalistes qui suivaient un peu ce dossier, la veille de l'identification de Guy Georges par la haute hiérarchie policière à Paris, en nous disant surtout, évidemment, vous gardez pour vous, on va essayer de l'interpeller demain matin à l'aube. Sauf un journaliste que je ne citerai pas, qui a violé tout le monde, c'est évidemment à respecter cette sorte d'embargo. Parce que l'enjeu, c'était quoi? Si jamais Guy Georges avait pu s'échapper parce qu'il avait entendu dire qu'il était recherché par la police et identifié par la police, il pouvait faire une nouvelle victime. Là, il n'y a même pas de discussion. Enfin, pour moi, je veux dire, c'est évident que...
On est quand même là dans une configuration un peu différente. Hein.
Mais justement, c'est pour ça que je la cite. C'est parce que là, il y a un effet direct sur la vie d'une personne. Dans les affaires politico-financières, on n'en est pas là.
Si j'ai bien compris, dans les enregistrements de Buisson, il y a eu une forme d'autocensure aussi, hein, je ne me trompe pas. Sur, il a été question d'une otage, il y a des passages qui n'ont pas été cités par la presse. Ouais.
Isabelle Vera-Masson, je voudrais qu'on s'arrête une première fois avec vous sur ce volet spécifique des enregistrements clandestins. On a entendu beaucoup de commentaires dans la presse sur le sujet, y compris sur le thème effarouché. Oh là là, c'est terrible, ces enregistrements, ces méthodes, quel scandale. Ariane Chemin nous disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'enregistrements, etc. En même temps, si on prend du recul un peu historique, enfin, si j'ose dire, l'espionnite dans les milieux du pouvoir, c'est pas, enfin, on découvre la lune.
Non, c'est pas nouveau. Il y a eu pas mal de cas, surtout en France, on en a cité quelques-uns, mais à l'étranger, c'est tout à fait significatif et important. En particulier, alors en France, on rappelle quand même rapidement Bettencourt, Cahuzac, Dassault, la cassette mairie, Bourdoulex. C'était quand même des cas tout à fait intéressants. Et puis à l'étranger, ce qui me semble intéressant, c'est de citer l'affaire Nixon. Nixon, donc dans les années, au début des années 70, avait pris l'habitude d'enregistrer les conversations à l'intérieur de la Maison Blanche en plaçant un peu partout des systèmes d'enregistrement qui s'allumaient de manière automatique quand il entendait une voix. Donc il y a eu 5000 heures d'enregistrement. Et apparemment, c'était un peu comme pour Buisson. On n'en sait rien, mais c'était probablement ça, à des buts personnels. Il voulait garder pour des raisons X ou Y. Et ça s'est retourné un peu comme pour l'affaire Buisson contre lui, puisque au moment de l'affaire Watergate, on s'est aperçu qu'il avait peut-être des enregistrements intéressants. On lui a exigé de lui qu'il donne ses enregistrements. Il a d'abord, dans un premier temps, refusé. Et puis finalement, il a dû accepter. Et là, effectivement, ça s'est retourné contre lui parce qu'il ne savait pas qu'il enregistrait lui-même un certain nombre de preuves qu'il était en train de lutter contre la justice dans la révélation du Watergate. Donc on a le sentiment qu'il y a une configuration assez semblable. Parce qu'en fait, dans les enregistrements, il y a ceux qui enregistrent pour fournir des preuves, pour attaquer, pour dénoncer, etc. Et puis il y a ceux qui enregistrent pour des raisons X ou Y. Et ça peut, dans certains cas, et c'est le cas de Buisson, c'est le cas de Nixon, se retourner contre eux. Donc je crois que la distinction, ce n'est pas simplement la question de la responsabilité, mais aussi la question de l'intentionnalité de l'enregistrement.
Et donc ça veut dire que la presse découvre la lune là, quand elle dit oh là là c'est terrible.
Il y a quand même deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a quand même deux choses qu'il faut bien distinguer. C'est d'un côté les enregistrements qu'on va qualifier de sauvages, ceux de Nixon peuvent rentrer dans cette catégorie, et les écoutes judiciaires. C'est quand même pas la même chose. Les écoutes judiciaires, elles rentrent dans une procédure, elles sont encadrées par la loi, elles sont limitées dans le temps, etc. Donc il faut bien faire la différence.
Oui, mais donc ce que dit Isabelle Vera-Masson,
c'est dans le cas d'un enregistrement sauvage.
Oui, mais c'est que ces enregistrements sauvages, ils existent dans les milieux du pouvoir depuis longtemps. C'est pas non plus un truc on découvre un peu la lune si on dit que c'est extraordinaire.
Non, peut-être un peu. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de collaborateurs qui enregistrent un président de la République ou un chef de l'État sans qu'il le sache,
ça doit être... C'est le cas, là. C'est le cas. C'est très rare, mais c'est le cas de Nixon. C'est ce qu'il faisait.
C'est l'inverse, quoi.
N'enregistrait pas que ses conversations. Il enregistrait les conversations de ses collaborateurs sans qu'il sache, qu'il le sache. Donc, bien sûr, il y a des différences, parce qu'il n'y a pas, d'ailleurs, on parlait du côté romanesque de Buisson, mais c'est assez proche.
J'ai appris, à l'occasion de toute cette histoire, que dans la légende élyséenne, Vincent Auriol et René Coty avaient un appareil enregistreur dans leur bureau. Et il paraît que les mémoires de Auriol, qui sont très intéressantes d'ailleurs et très nourries, ont été rédigées à partir de ces documents.
On peut se demander si Jacques Attali n'avait pas un verbatim.
C'est ce que disent les historiens d'Élysée.
Il avait une photocopieuse.
Donc la presse fait mine d'être surprise alors.
D'abord, le problème, c'est que dans cette histoire, il ne faut pas se faire prendre. Vous faites un enregistrement. Auriol, on ne l'a jamais su, on l'a su que bien après. Ensuite, c'est vrai qu'un collaborateur qui se permet de faire ça sans en avoir avisé son supérieur, enfin celui, bon, c'est quand même particulièrement choquant. Et donc, on peut quand même s'en indigner.
Il y a quelque chose qu'il faut dire, je crois, qui est important dans l'histoire, c'est le contexte politique. C'est-à-dire que Patrick Buisson n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui vient de l'extrême droite, qui a été accusé par une partie de l'UMP d'avoir droitisé, d'avoir même gouroutisé Nicolas Sarkozy lors de la campagne, et de l'avoir fait perdre. Donc il y a ce contexte-là, vous voyez bien.
Mais les choses aussi, qui sont... Excusez-moi Pascal Sauvet, est-ce qu'on ne découvre pas la lune sur Patrick Buisson sont... Enfin, qu'il ait ce genre de méthode, oui. C'est pas franchement surprenant vu le parcours du personnage.
C'est-à-dire quand même... Ce qui a été dit, c'est « Ah bah oui, c'est les bonnes vieilles méthodes d'extrême droite qui reviennent, les Maurassiens, ils ont toujours fait ça, voilà. »
Je crois que c'est quand même plus psychotique chez Patrick Buisson parce qu'il a enregistré les gazouillis de son fils à 2 ans. Donc là, on n'est quand même pas dans la pratique politique.
Alors, sur l'attitude de la presse cette semaine, je voudrais qu'on parle aussi de l'affaire Copé. Et là, il y a un autre phénomène assez caractéristique, c'est que la presse a serré les coudes quand on l'a attaqué.
J'annonce donc avec force ici et maintenant que l'UMP est déterminé à mettre à disposition l'intégralité de sa comptabilité. Mais pour que cette transparence soit totale, elle doit s'imposer en même temps, à tous les acteurs de la vie politique de notre pays et à tous ceux qui bénéficient de larges subventions publiques pour s'assurer de leur bonne utilisation.
Jean-François Copé affirmant donc en substance « Je publierai nos comptes si tout le monde fait pareil, et y compris la presse ». Alors tous les médias lui sont tombés dessus à bras raccourcis en disant d'abord « Il ne s'explique pas sur le fond de l'affaire Big Malion, on est d'accord, il n'a pas donné de fait d'explication », mais aussi sur le thème « Mais pourquoi est-ce qu'on nous demande des comptes à nous ? Il n'a pas le droit de nous demander des comptes à nous ». C'est pas un peu corporatiste comme réaction quand même ça ? De ne pas écouter ce qu'il dit, après tout, il dit quelque chose qui n'est pas inintéressant, au-delà de l'affaire Big Malion, non, Ariane Chemin?
Moi, je crois que ce n'est pas du tout ça qu'on attendait de Jean-François Copé. S'il veut se défendre, il dit, ben voilà, faisons un audit et essayons de voir si, effectivement, j'ai surfacturé, comme président de l'UMP, des prestations qui étaient demandées à une agence amie. C'est ça qu'on attend de lui. Il n'a pas dit, et du coup, le soupçon est encore plus grand, c'est vrai.
Dont acte, mais il fait quand même une contre-proposition, une autre proposition qu'on est en droit d'examiner. Et la presse s'y est refusée. Elle a dit, non, ce n'est pas le sujet, on n'a pas nous à rendre des comptes, c'est pas notre problème.
Son intervention, elle est parfaite jusqu'au mai. C'est à partir du mai que tout se gâche. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une manœuvre dilatoire. C'est-à-dire que s'il avait dit, voilà, je montre les comptes de l'UMP dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je réclame la même chose des autres partis politiques et des médias, des gens qui sont subventionnés par de l'argent public. Oui, mais là, la ficelle est quand même trop grosse. La seule chose que tout le monde a vue, c'est la diversion ratée. C'est cette espèce de tentative de dire, oui, attention, d'autant qu'en plus, il y avait le passé ne plaidait pas tellement en sa faveur. Il s'est opposé à toutes les tentatives de transparence.
Il a le droit de changer d'avis.
Il a le droit de changer d'avis, bien sûr, mais disons, ça existe quand même. Bon, voilà.
Charles Ségut ?
Non, mais je suis complètement d'accord. C'est manœuvre dilatoire. Soit il ouvre les portes, il donne l'exemple. Soit il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire au fond, il se débrouille pour renvoyer à plus tard le moment où on se penchera sur les comptes
de cette campagne. Objectivement, ça aurait eu de la force. Si il avait dit, voilà, moi je monte les comptes de l'UMP, voilà. Mais j'ai fait ce geste, j'ai répondu à une attente, mais j'en attends autant des autres. S'il était dans cette posture-là, il était beaucoup plus en position de force, parce que c'était très difficile pour les autres de dire « Ah ben non, nous on le fera pas ».
Mais encore une fois, manœuvre dilatoire, dont acte, tout le monde l'a constaté. Il en reste pas moins qu'on a eu cette sensation que les médias ne supportaient pas de se voir attaquer.
Il m'a semblé que la façon... Pardon.
Charles Ségut et Ariane Chemin ensuite.
La façon dont Copé a organisé sa contre-attaque était très disproportionnée. Et il a utilisé des mots, des termes d'inquisition, enfin je ne me souviens plus en tête la liste de moyenâgeuse. Bon, d'abord, c'est un classique chez les hommes politiques quand ils sont le dos au mur, ils en rajoutent et ils dénoncent parfois, à raison, des attaques qu'ils jugent totalement injustifiées. Etc. Mais là, c'est juste un article du Point, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire autant. Et à mon avis, d'ailleurs, s'il avait fait le gros dos, on serait passé à autre chose. Et la semaine qui vient de s'écouler aurait fait oublier cette histoire.
Je crois qu'il y a deux choses qui ont agacé les journalistes. Effectivement, d'abord, il a crié au complot, la thèse complotiste, comme par hasard, ça sort maintenant. Et François-Olivier Gisbert, qui me déteste, on sait très bien, nous journalistes, que ça ne se passe pas comme ça, que c'est beaucoup plus artisanal, que la journaliste du Point est allée voir les comptes de campagne et qu'elle est tombée sur cette affaire Big Magnon et qu'il n'y avait aucun complot. Donc déjà, là, bon. Et puis, je crois aussi qu'on commence à s'habituer aux mots, au terme de la communication de crise. On sait très bien que Jean-François Copé, il a le meilleur communicant de crise auprès de lui, Sébastien Milon, c'est son meilleur ami.
Et on de entend la fameuse tellement... société Pygmalion. Hein.
Voilà, le patron de la fameuse société. On attend tellement ces mots, on les a tellement entendus, vous voyez, qu'on ne peut plus y croire. Donc effectivement, il y a eu un réflexe un peu corporatiste. Arrêtez de dire que voilà, on vous en veut à vous spécialement et que tout dirigé contre vous à ce moment-là, et puis utiliser des mots normaux. Et je reviens sur c'est très bien de montrer des comptes de l'UMP, mais ça ne suffit pas. On voudrait savoir s'il y a eu appel d'offres et si, effectivement, on pouvait effectuer ces meetings à un tarif bien inférieur, comme le disent aujourd'hui les concurrents.
Ariane Chemin, du Monde, Pascal Sceau de l'Express, Charles Jégu du Figaro sont dans le secret des sources ce matin sur France Culture. Et maintenant, tendez l'oreille, tendez vraiment l'oreille. Ah oui, que même entendant l'oreille, hein, vous aurez compris qu'on entend difficilement. C'est donc l'un des extraits de ces enregistrements clandestins de Patrick Buisson, dont la diffusion pourrait bien être interdite prochainement par la justice. C'est possible. Dans cet extrait, je vous donne le sous-titrage. Donc, il est notamment question du remplacement éventuel de François Fillon, Jean-Louis Borloo hors de question, dit Sarkozy, peut-être Alain Juppé. Bon, voilà. Enfin, il y a dans cette histoire aussi, Isabelle Verramasson, et c'est pour ça qu'elle plaît sans doute à la presse, hein, et bien qu'il n'y ait pas de révélation majeure jusqu'à présent dans ces enregistrements, il y a quelque chose qui relève du film. On est dans la fiction, on est dans le feuilleton, on est dans le good story, comme disent les Anglais.
Oui, la réalité dépasse la fiction. Et nous qui sommes abreuvés à la télévision de séries policières ou d'espionnage, là, c'est assez frappant. Il y a tout. Il y a l'homme de l'ombre. En plus, il est extrême droite, qui parle évidemment beaucoup pour nous. Il a un visage énigmatique et assez terrifiant comme ça. Il a le physique de l'emploi. Il écoute son ami en cachette. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la trahison individuelle, puisqu'on sait à quel point Sarkozy a défendu Buisson contre tous. Et pourtant, il était trahi. Il y a la question du mobile. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il avait l'intention des archives? Mais on pense bien évidemment à la manipulation, au chantage, à se servir de ça dans un but absolument néfaste. Et puis surtout, il y a l'effet feuilletonnant. On attend la suite. Hein, on se demande ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qui va sortir la prochaine fois. Et donc, on a vraiment tous les ingrédients du feuilleton. Donc, je crois que ça, c'est important pour la presse. Ça va lui donner de l'envie de le traiter. Et puis, ça lui donne un peu d'écoute. Moi, je crois quand même, pour terminer, que... il y a aussi un saupoudrage assez intéressant dans ce qui est sorti. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'ordinaire, on voit les rapports de force, qui est-ce qui est écouté plus que l'autre, quel est le conseiller le plus intéressant, des gros mots, des insultes. Il y a l'aspect people. On entend Carla Sarkozy dire « Dis donc, moi, je croyais épouser un homme très, très riche. Et puis, en fait, j'épouse un type qui a pas un rond. » Enfin, vraiment, bon, là. Et puis, il y a quand même un peu de politique. Parce que quand on apprend que Claude Guéant serait le type qu'il faut laisser là parce qu'il peut intervenir auprès des juges, là, on dresse l'oreille et on se dit qu'il y aura, dans la suite du feuilleton, des choses qui seront peut-être, une fois que les avocats auront traité l'affaire, un peu plus intéressantes.
Mais il y a feuilleton et puis il y a un matrioshka de feuilleton, si je peux formuler ça ainsi, parce que c'est ça aussi qui est saisissant dans la semaine écoulée. C'est ce feuilleton des différents feuilletons qui, je ne sais pas s'ils se chassent l'un l'autre ou s'ils s'entrecroisent, s'ils se cumulent.
Avec le risque d'ailleurs de faire croire à l'organisation de ces sources. Hein. Et ça, il y a beaucoup. Les gens disent, il y en a trop. Ça prouve que c'est organisé. Ça, c'est faux. Et ça, c'est le complot.
C'est vrai que, par exemple, pour l'opinion publique, pour les gens, les électeurs de droite, on va dire les choses franchement. C'est vrai que ça peut poser question. Les gens peuvent légitimement se demander, mais c'est quand même bizarre cette accumulation à trois semaines du premier tour des élections municipales. Et c'est vrai qu'il y a des éléments qui peuvent aller dans leur sens. On sait bien que, par exemple, on dit toujours, c'est un grand classique, le temps judiciaire n'est pas celui de la presse. Le temps judiciaire, c'est quelque chose qui est plus lent, on prend son temps. Alors on se dit pourquoi, par exemple, était-il nécessaire de mettre Madame Brigitte Barège, maire UMP de Montauban, en garde à vue trois semaines avant le premier tour? On aurait pu attendre le 2 avril, alors qu'elle est candidate à ses successions. C'est pas une question sur les faits. Peut-être que Madame Barège est malhonnête, j'en sais rien. On verra ce que dira l'enquête. Mais c'est vrai que cette accumulation, elle alimente un soupçon, qui est peut-être pas fondé, mais en tout cas, elle est de nature à l'alimenter.
Ariane Chemin.
Moi, ce qui m'a frappé dans l'enregistrement que vous avez diffusé, c'est que ça raconte aussi beaucoup de la Ve République. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans un système monarchique. Il y a une cour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une cour. Je pense que dans une série télévisée comme Borgen, vous n'auriez jamais ce genre de choses. Je trouve ça très, très français.
Éric Chavroux, je voudrais qu'on dise un mot aussi de la façon dont la presse s'est efforcée de titrer l'affaire, ou plutôt de la définir. C'est intéressant de voir aussi d'ailleurs comment les nouveaux médias ont agi là-dessus, avec des référents récurrents qui renvoient à des formules anglaises. Hein. C'est le mot « gate » ou le mot « leaks ».
Oui, c'est le dilemme récurrent, évidemment, depuis le Watergate. Isabelle en parlait à l'instant, et depuis Wikileaks. Alors, chacun a choisi son mot-clé. Il y en a aussi comme Sud-Ouest qui ont utilisé les deux sans vraiment trancher. Et puis d'autres encore, comme Eva Joly sur notre antenne mercredi, qui, elle, a choisi de bouleverser un peu la donne en parlant de buisson leak. Alors, du coup, on a un peu du mal à s'y retrouver. Et finalement, on se demande quel est le déterminant pour tout ça. Est-ce que c'est la nature même de l'affaire, c'est-à-dire des écoutes ou des fuites, mais ça peut être un mélange des deux, ou alors est-ce que c'est l'homme au cœur de tout ça, ce nom propre qui se retrouve tweeté ou retweeté, et puis essentiel, à qui peuvent servir ces choix, ce qui est absolument pas anodin ni innocent, surtout quand on venait énormément de parler du retour du président de la République aux affaires.
Dans l'affaire Copé Big Malion, c'est un peu différent, mais on a des ingrédients. Enfin, il y a un ingrédient de storytelling, pour reprendre un mot anglais, qui est aussi frappant, et c'est un ingrédient purement visuel. C'est-à-dire qu'il y a ce contraste entre les deux images de Jean-François Copé. Hein, et on les retrouve d'ailleurs dans votre article du week-end dernier dans Le Monde, Ariane Chemin avec Raphaël Baquet. C'est le contraste entre l'image dite de la piscine et l'image de Jean-François Copé lundi lors de son allocution.
Donc la première image, c'est lundi au siège de l'UMP. Jean-François Copé debout, costume sombre, le visage grave, qui s'exprime sur la transparence à propos des partis politiques et des médias. Et il y a un bleu qui est omniprésent, le bleu des drapeaux français, européens, le bleu du logo de l'UMP, et un bleu plus clair derrière lui, en toile de fond, qui nous envahit, qui envahit aussi notre esprit, et qui, du coup, nous replonge dans une autre image, qui est donc celle...
Cette fameuse image de la piscine de Ziatkiedine, et alors après, c'est fait évidemment un plaisir de la ressortir depuis une semaine.
À l'été 2003, au Cap d'Antibes, et On retrouve du coup des analyses sur cette image. Il y en a une passionnante que vous découvrirez sur la page du Secret des Sources. C'est un spécialiste de l'image, Olivier Beuvelet, qui parle d'une des photographies politiques les plus troublantes de ces dernières années et qui explique comment ce cliché de vacances tout à fait amateur, avec la petite date en rouge en bas à droite, comment c'est devenu une allégorie politique qui évoque toute une sémantique, être éclaboussé par un scandale, mouillé dans une affaire, toucher le fond, etc., etc. Et face à cet océan de bleu dont je vous parlais en toile de fond de lundi, ce document de 2003 ressort, en particulier par le biais de Mediapart, puisque c'est Mediapart qui avait révélé ce document, et en particulier par Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, qui adore Twitter et qui se fait un plaisir, qui s'est fait un plaisir à publier sur son compte et la photo de la piscine, et puis ensuite, en disant que, puisque Jean-François Copé voulait de la transparence, un petit album photo de 7 clichés illustrant la transparence telle que lui, Fabrice Arfi, la voyait, et qui n'était évidemment pas celle que prônait, qu'exigeait Jean-François Copé lundi.
Ariane Chemin, Charles Jégu, on a l'impression que Jean-François Copé ne se sort pas de cette image de la piscine. En termes de communication médiatique,
avant la publication, je parle sous contrôle de Pascal qui connaît bien, mais avant la publication de la photo par Mediapart, on connaissait les liens qui initiaient Ziatkiedine, marchand d'armes, avec Jean-François Copé, mais ça n'avait pas tellement eu d'écho. Et en fait, il a fallu l'image pour qu'on comprenne qu'au fond, et autant que la piscine, je crois que c'est l'un des proches de Jean-François Copé qui dit ça, il y a aussi le côté léger de « je lève la jambe avec un marchand d'armes qui m'a offert une montre », enfin tout y est quoi. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la photo a évolué, c'est que désormais ce sont deux ex-épouses et elles ont un bandeau sur les yeux parce qu'elles ne sont plus mariées.
Mais là, par rapport à lundi, il y a quand même le calque entre lui au milieu du fond, lundi bleu, et lui au milieu de la piscine.
Charles Jégu,
non, mais
Figaro.
Oui, non, mais cette photo fait sens toujours rétrospectivement. À partir du moment où il y a l'événement, enfin, une nouvelle histoire qui s'ajoute à quelque chose qui était là en toile de fond, mais qui pouvait être oublié après tout, s'il n'y avait pas des péripéties comme celles dont on parle aujourd'hui avec la société Pygmalion. Bon, mais et c'est vrai que là, ça recristallise quelque chose et que. Pour Jean-François Copé, c'est un vrai problème, puisqu'il a déjà, il commence à avoir vraiment un certain nombre de marqueurs très négatifs en termes d'image. La crise de l'UMP étant sans doute le plus aigu. Voilà, ça oui, s'accumule. Voilà.
Je pense que c'est aussi lié, si vous voulez, à l'image que malgré tout, les gens, l'opinion publique conserve d'un chef d'État. Un chef d'État, ce n'est pas quelqu'un qui part en vacances avec un marchand d'armes et qu'on retrouve au bord de la piscine. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui aspire à cette position, et Dieu sait si Jean-François Copé y aspire, il ne pense même quasiment qu'à ça depuis son
même
plus jeune âge.
Il ne se rase pas. Oui.
Voilà. Et en fait, quelque part, c'est une image qui vient totalement brouiller ces espoirs présidentiels. Et c'est en ça que c'est terrible. C'est en ça que ça a un effet. Les gens se disent, ben, finalement, ce type-là, il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas faire le job.
Oui. C'est le secret des sources sur France Culture. Vous réécoutez, vous téléchargez, vous commentez comme toujours sur franceculture.fr. Dans un instant, on prolonge encore cette réflexion sur la semaine douloureuse de l'UMP et de Nicolas Sarkozy. Quelques notes de la rappeuse Kenya Arcana, très engagée dans l'anti-sarkozisme lors du mandat de l'ancien chef de l'État. Nettoyée au Karcher.
La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au Karcher, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous portons donc karchériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillonnant la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation. Article 49.3, pression, couvre-feu, dépassé. Ta 5e République a pris un coup de vieux. Le bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache les plus grands des ragas. Nettoyage au Karcher, gouvernement honteux, honteux, est-ce que rien amène à la démission. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache les plus grands des ragas.
Voyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cachent les plus grandes des racailles. Ce sont des textes de la rappeuse Kenya Arcana. Ariane Chemin du Monde, Pascal Sceau de l'Express, Charles Jégu du Figaro sont toujours avec nous dans ce studio. Je voudrais qu'on écoute ensemble ce que disait cette semaine sur BFM Télé le directeur du Point, Étienne Jernel, juste après l'intervention de Jean-François Copé.
Ce qu'on fait, ça s'appelle du journalisme, c'est des enquêtes. Vous savez, nous, on a été très dur avec François Hollande ces derniers temps sur sa politique. Là, on a fait une enquête, ça s'appelle du journalisme. Il faut s'habituer à ça. Il y en a que ça choque parfois, mais voilà, ça fait partie.
Chasse à l'homme, dit Jean-François Copé.
Non, ça s'appelle une enquête. Quand les journaux font leur travail, c'est pas des chasses à l'homme. Nous, on fait de la chasse aux chiffres. D'ailleurs, on n'a toujours pas les chiffres parce qu'il veut toujours pas les donner. Il a trouvé un truc formidable pour pas les donner tout de suite. Non, on ne fait que de la chasse aux chiffres. Et après, nous, on lui en veut pas personnellement. C'est pas le sujet. Ça s'appelle du journalisme. C'est juste ça. C'est tellement simple.
Étienne Jernel dit au détour de cette phrase, on a quand même été très dur avec Hollande ces derniers temps en substance. Et du coup, j'ai aussi envie de soulever cette question. Est-ce qu'on n'est pas, avec la séquence de cette semaine, en train de vivre typiquement un effet balancier? Vous savez, les médias ont beaucoup cogné sur le pouvoir socialiste et tout d'un coup, ils disent, bon, allez, match retour, on en a marre de taper à gauche, on va taper à droite.
Il y a beaucoup de gens qui disent que surtout, on est en train de doper le vote FN aux européennes.
C'est une autre question. Mais parce que ces effets balanciers, ils existent dans la presse, on le sait. Enfin, ça va d'un côté, puis tout d'un coup, hop.
C'est quand même l'effet qui les provoque. S'il n'y avait pas eu ce soupçon éventuel de favoritisme à l'égard de Pygmalion de la part de Jean-François Copé, on n'aurait rien sorti sur lui.
Moi, je ferai une différence dans cette semaine médiatique très préoccupée, effectivement, de la droite, entre l'histoire Jean-François Copé, qui a sa propre vie, et puis les enregistrements Buisson, et maintenant ce qu'on a appris aujourd'hui par l'intermédiaire du Monde.
Et de l'Express.
Voilà, un soupçon de trafic d'influence et également des enregistrements.
Des écoutes judiciaires
qui auraient été décidées
à l'encontre de
Nicolas Sarkozy. Donc, ça, en revanche, le fait que ce soit porté à la connaissance du public maintenant, aussi bien les enregistrements Buisson que cette histoire de Sarkozy, on se demande pourquoi maintenant. Est-ce qu'il y avait une urgence à ce qu'on sache
pour
Buisson tout de suite, voilà.
Je peux répondre pour ce qui nous concerne. Nous, on a ce qu'on a révélé dans l'Express, c'est les perquisitions qui ont eu lieu chez Gilbert Azibert, donc le magistrat de la Cour de cassation, ouais. Et chez Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Ouais, c'est parce que les perquisitions, elles ont lieu mardi. Donc,
mais bien sûr, mais je dis pas.
C'est le fait qui a provoqué la publication de l'information.
Le calendrier ou le timing, c'est pas les journalistes qui le décident, ce sont les juges.
Reste que ça renvoie à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que cet enchaînement des trois séquences là a quelque chose vu de l'extérieur, y compris pour l'auditeur, le lecteur, quelque chose peut-être de troublant de se dire est-ce que c'est pas une affaire qui chasse l'autre, est-ce qu'il y a pas intérêt, est-ce que les uns ont pas intérêt, ah tiens là en fait c'est les anticopéistes qui manipulent ça, puis après les autres se réveillent et puis enfin vous voyez ça prête à ce genre d'interprétation vu de l'extérieur, non?
Oui, ça prête, toujours. Mais justement notre rôle c'est de démonter ça. Je pense que vraiment à chaque fois il faut rappeler. Le côté artisanal des enquêtes, parfois on est prêt, parfois on n'est pas prêt, c'est toujours beaucoup plus artisanal qu'on ne pense, c'est la leçon du journalisme.
Donc c'est des coïncidences, si tout ça sort en même temps, pour vous?
La question peut être posée, mais pas aux journalistes, aux juges et aux magistrats qui ont décidé, par exemple, de rendre public cette histoire sur les écoutes de Nicolas Sarkozy, pourquoi est-ce que ça sort maintenant? Ça, on peut s'interroger.
Bah, vous êtes en train de nous dire que c'est les magistrats qui ont appelé les journalistes. Hein,
Non, mais pourquoi est-ce que ça sort maintenant? Non, mais
si ça sortait entre les municipales et les européennes, on poserait aussi la même question. Il faut bien que ça sorte un jour.
C'est vrai aussi.
Ils pouvaient pas. Voilà. Donc,
Moi, c'est pas. Pascal Sceau. Le problème que je trouve choquant, là, du point de vue. Je sais pas, du point de vue de Nicolas Sarkozy, je vais pas m'exprimer à sa place. C'est pas tellement le fait que ça sorte, c'est plutôt les conditions dans lesquelles l'information a été constituée dans le dossier judiciaire. Parce que c'est quand même un problème de fond, là, pour le coup, vraiment. C'est-à-dire comment on peut construire une accusation qui est quand même assez grave, hein, de trafic d'influence, on verra si elle aboutit ou pas, mais en tout cas, on ouvre une information sur ce thème-là, sur la base d'une écoute judiciaire d'un avocat qui s'adresse à son client. C'est quand même un piétinement. Alors, il se trouve que le client est un ancien président de la République, mais c'est quand même un piétinement du droit de la défense qui est quand même très, très stupéfiant. Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, s'exprime dans Le Monde de cet après-midi, et je crois qu'il soulève à juste titre ce point. Et ça c'est quand même un peu... Alors, certes, il y a une jurisprudence maintenant qui dit qu'on peut écouter un avocat, même dans les conversations avec son client, s'il est soupçonné de quelque chose. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est l'écoute qui vient conforter des soupçons. Mais les soupçons, c'est quoi? À partir de quel moment on considère qu'un soupçon est suffisant pour écouter une conversation? Et il y a un autre élément qui est presque une circonstance aggravante. Comme le raconte très bien l'article du Monde, l'article du Monde dit que, en fait, on a repéré un portable utilisé par Sarkozy et par Herzog, portable non officiel, qui était utilisé pour les conversations de l'avocat à son client. Là, on est bien directement dans l'interception de conversations d'un avocat et de son client. Ça pose quand même un problème.
Mais encore une fois, on est aujourd'hui en présence d'un parti, l'UMP, qui est rongé par les divisions, où il y a des haines recuites à l'intérieur. On sait tous qu'il y a les fillonistes, les copéistes, les sarkozistes, les gens qui ne veulent pas que Sarkozy revienne, les gens qui veulent qu'il revienne, Alain Juppé qui est dans un coin, etc. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des gens qui ont intérêt à faire sortir des informations dans un sens pour nuire à l'adversaire. On ne peut pas s'empêcher de le penser, Charles Jégu.
Ça fait partie des jeux de la politique depuis toujours.
Mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on peut pas partir de ce jugement-là. Nous, notre problème, c'est la véracité des faits qui nous sont rapportés. Je veux dire, encore une fois, ça, c'est une grande naïveté de penser que les gens peuvent nous donner de bonne foi des informations ou par souci démocratique. Ça peut arriver, mais c'est rarissime. En général, ils donnent des informations parce qu'ils y ont intérêt. Et donc, on est toujours manipulé d'une certaine manière. Mais c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est de savoir si les informations qui nous sont communiquées sont vraies ou pas. Et nous, notre problème, c'est celui-là. Si elles sont vraies, pourquoi on ne les publierait pas?
Ariane Chemin.
Par ailleurs, je ne trouve pas que la gauche soit tellement en meilleure santé, parce que voilà, Hollande, il est en chute dans les sondages. Il y a deux patrons de Fédération Socialiste qui sont en prise à la justice avec la justice, Jean-Noël Guérini et Cucheda dans le Pas-de-Calais. Donc on pourrait dire la même chose dans l'autre sens, je pense.
Mais donc si on prolonge cette réflexion-là, on peut se dire que certes la presse doit faire son devoir d'information, mais qu'en le faisant aujourd'hui, elle fait le jeu de Marine Le Pen. Ah ben si on pose la question de façon citoyenne plus large.
On peut s'inquiéter, mais on va pas taire des informations parce qu'on va faire le jeu de Marine Le Pen, mais on peut s'en inquiéter. C'est vrai qu'il suffit de regarder les réactions des lecteurs sur le net après des articles comme ça. C'est vrai que ça fait peur parfois.
C'est intéressant de comparer avec la presse des années 30. Parce qu'on dit la presse des années 30, par sa violence, elle a beaucoup contribué à la montée du fascisme, y compris en France, des ligues, etc. Mais si on compare bien, la presse d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus, entre guillemets, sérieuse. C'est-à-dire qu'elle s'appuie, ses reproches, ses critiques s'appuient beaucoup plus sur des faits, sur des enquêtes judiciaires, sur des témoignages, sur des révélations. Alors que la presse des années 30, c'est une presse complètement d'opinion. Où les gens
d'injures, quand on lit les papiers sur Salin Gros,
ça n'a rien à voir. C'est des espèces de lynchages publics. Et franchement, là, ça, on n'en est pas là quand même.
C'est vrai que nous, on a beaucoup de coups. On sent que les lecteurs et que les électeurs et que de façon générale les électeurs de droite, on réagissent très négativement et se sentent victimes d'un complot, etc. Et on sent aussi monter un rejet des partis de gouvernement dans les réactions le courrier des lecteurs. Donc c'est une réalité, mais c'est toujours l'histoire du thermomètre. Vous ne pouvez pas casser le thermomètre, ça change. La presse, elle enregistre, c'est une plaque sensible qui enregistre un certain état de la société et des affaires judiciaires. Évidemment, il y a des manipulations. Évidemment, il y a des journaux de droite et de gauche et des journaux qui sont dans l'entre-deux et qui choisissent plus ou moins d'attaquer, qui ont leurs intérêts politiques. Mais enfin, tout ça se fait sur la base d'un travail factuel, enfin en tout cas de recherche d'informations. Donc je ne crois pas qu'on puisse vraiment reprocher à la presse de manipuler autant que vous le laissez entendre, quoi.
Isabelle Véramasson, j'ai envie d'avoir le regard, le sentiment de l'historienne peut-être pour conclure là-dessus. Comment vous regardez justement ce paysage droit, devoir d'information de la presse d'un côté, puis de l'autre, paysage politique global.
C'est-à-dire qu'on est très, très partagé entre ce sentiment qu'il est important d'informer, que c'est la base de la démocratie, de la liberté d'expression et que tout doit être dit, le risque que ce ne soit pas entendu et compris comme un devoir civique, mais au contraire comme une tentative de manipulation. Or, c'est ce qui se passe. On voit bien lorsque dans tous les sondages sur la légitimité de la presse, ils sont extrêmement bas. Donc, de toute façon, et on le voit bien sur Copé, quel que soit ce qu'il dit, de toute façon, sera toujours interprété par notre grille négative sur lui. C'est-à-dire que il faudrait d'abord que la presse reprenne un peu de poil de la bête, de légitimité, pour qu'ensuite, on considère que son travail n'est pas entaché par le soupçon, et le soupçon d'être manipulé par le complot. Donc, on est dans un système de serpent
qui se mord la queue. C'est une facilité de la presse que de tirer sur l'ambulance Copé, c'est ça que vous voulez dire là ?
Oui, alors dans ce sens-là, pour revenir à notre débat initial, c'est vrai qu'il est plus facile pour la presse d'aller dans le sens de l'opinion publique, qui est en l'occurrence extrêmement négative à l'égard de Copé. C'est vrai pour Hollande, c'est beaucoup plus difficile pour la presse d'aller contre l'opinion publique. Et quand elle va contre l'opinion publique, elle est immédiatement soupçonnée de faire le jeu des complotistes. Et il faudrait donc encore une fois qu'elle acquiert, et ça je ne sais pas comment elle pourrait faire, beaucoup plus de crédibilité, de force, de légitimité, pour que sa parole ne soit pas entachée constamment du soupçon.
Un grand merci à tous. Exceptionnellement, pas de clin d'œil final cette semaine. Yacine Bouzard s'est accordé quelques jours de repos. Ariane Chemin, Pascal Sceau, Charles Jégu, Isabelle Véramasson, Éric Chavroux étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Affaire Copé, Buisson, Sarkozy, pourquoi une telle frénésie médiatique ? Comme toujours, c'est à vous de jouer. Vous commentez, vous questionnez, vous critiquez sur franceculture.fr où Le Secret des Sources est évidemment aussi en réécoute et en podcast. Et notez que demain à 18h15 dans Dimanche et après sur Culture, Olivier Gesbert s'interrogera sur l'avenir politique de l'UMP à l'issue de cette semaine agitée. Dans quelques minutes après le journal d'Anne-Laure Chouin, réplique sur France Culture ce matin, l'actualité de Simone Veil. Alain Finkielkraut reçoit Emmanuel Gabellieri et Robert Chenavier. Prenez soin de vous.
Personne ne vous donne une information pour vos beaux yeux, parce que vous êtes sympathique. Les gens vous donnent une information parce qu'ils ont un intérêt à vous la donner. Mais ce n'est pas tellement notre problème à nous. Notre problème, c'est de vérifier si l'information est exacte ou pas. Si elle est exacte, qu'est-ce qu'on fait ? On ne la donne pas au prétexte que peut-être on a été manipulé par la source ?
L'affaire Bettencourt, on sait que c'est une source judiciaire qui va transmettre l'information aux journalistes. Donc il y a violation du secret de l'instruction. Donc ça, il y a des médias qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Je pense qu'au Figaro, on aurait tendance à ne pas le faire, mais peut-être que parce qu'on pose à la vertu et qu'on a tort de le faire.
Ah oui, parce que sur l'affaire DSK, vous l'avez fait.